Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau dans cet épisode de notre podcast Radio EIR. Aujourd'hui, nous allons soulever plusieurs sujets, notamment à l'occasion de la semaine du printemps des poètes, ainsi que des médias et de la presse organisés au sein de notre établissement. Nous avons donc voyagé un peu partout pour interviewer différentes personnes sur cette semaine. Pour cela et plus encore, restez à l'écoute. Et donc dans un premier temps, chers auditeurs, nous tenons à nous présenter. Je m'appelle Lina El Khateb et je suis en seconde B.
Et moi, je suis Lina Douhaoui en seconde A.
Et moi, c'est Rouma, je suis élève de seconde B.
Et moi, c'est Loubna El Hali, élève de la seconde B.
Et moi, je m'appelle Adam Denis Bouzian, je suis un élève en seconde A.
Plusieurs actualités ont marqué le hier ces derniers temps. Nous avons décidé d'en sélectionner trois. Pour cela, nous sommes allés à votre rencontre pour vous poser des questions.
Dans un premier temps, nous avons interviewé Madame Agifiac, professeure de lettres et prio du lycée, sur les épreuves du bac blanc de français qui ont eu lieu la semaine dernière.
Donc, première question, comment avez-vous trouvé les épreuves ?
Alors, comment j'ai trouvé les épreuves ? Comment j'ai trouvé les élèves, vous voulez dire, face aux épreuves ?
Oui.
Bon, on a eu de tout, hein, c'était assez hétérogène. J'ai trouvé dans l'ensemble les élèves assez mal préparés, pour être honnête. C'est-à-dire qu'ils ont appris leur texte, mais pour beaucoup, ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc, ils se sont malheureusement souvent retrouvés en difficulté dès qu'on a posé des questions, dès qu'on est entré dans l'analyse du texte. C'était parfois compliqué pour certains et on a eu de très belles surprises. En revanche, on a eu aussi des élèves bien préparés qui ont compris l'exercice. C'est un exercice qui n'est pas évident puisqu'il est totalement à l'oral. Donc, il consiste, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, nous travaillons donc sur l'analyse de texte, l'analyse linéaire, pardon. Et les élèves ont un certain nombre de textes à préparer pour la fin de l'année. Donc là, c'était un bac blanc, c'est une préparation. Donc, ils avaient un nombre de textes qui sont travaillés en classe, donc qu'ils connaissent. Nous tirons au sort un des textes. Et l'épreuve est divisée en deux parties. La première partie consiste en l'analyse du texte par l'élève. Donc, il nous fait une analyse linéaire. Puis, il répond à une question de grammaire, toujours sur ce texte. Et ensuite, nous avons la dernière partie qui concerne la lecture cursive. Donc, ils ont quatre lectures cursives dans l'année. Ils en choisissent une. Donc là, c'est leur choix. Et en fait, ils nous font une présentation de cette lecture. Donc, ils nous expliquent, ils nous présentent le livre. Et puis ensuite, ils nous expliquent pourquoi ils ont fait ce choix. Et il y a un échange, donc ensuite, par la suite, où on peut rebondir sur ce qu'ils ont dit, essayer d'approfondir. Et là, il y a parfois des difficultés. Ça reste encore un petit peu superficiel.
D'accord. Voilà. Merci. Et donc, maintenant, je vais vous poser une autre question. Auriez-vous des conseils, madame, à donner pour les élèves de seconde ou du collège pour qu'ils puissent se préparer à cette épreuve ?
Alors, mon premier conseil, c'est lire, lire, lire. Il faut lire le maximum de livres que vous pouvez. Pour un élève de collège ou de lycée, le minimum, c'est un livre par semaine. Vous devez être capable de lire, je ne dis pas de lire des livres de 500 pages par semaine, mais on doit être capable de lire des livres d'une centaine de pages par semaine. Si on a un grand livre de 500, 600 pages de semaine, mais il faut lire énormément. Et il faut également, ça c'est un exercice qu'on ne pratique pas beaucoup, que les élèves ne pratiquent pas beaucoup, lire à voix haute. Lorsqu'on vous donne un texte à préparer, que ce soit en histoire-géographie ou en français, il est important de prendre le temps à la maison de le lire à voix haute. Pourquoi ? Pour travailler la ponctuation, l'intonation, la prosodie du texte. Mon premier conseil, et le principal, c'est lire. Et le deuxième conseil, c'est d'être régulier. Voilà. On ne prépare pas un examen la veille, deux jours, trois jours avant. Ça se prépare sur toute l'année. Donc, c'est d'être régulier, d'apprendre à faire des fiches très tôt, des fiches de lecture, des fiches d'analyse sur les textes. Il faut apprendre à ficher. Voilà. Synthétiser ce que j'ai appris. Comme ça, lorsque vous arrivez aux périodes de révision, puisqu'il y a des périodes pour réviser, tout est déjà fait en amont. Vous avez déjà un premier travail qui a été effectué et vous n'avez plus qu'à réviser puisque c'est le but. Voilà.
D'accord.
Donc, anticiper, lecture et anticipation.
D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre réponse et vos conseils. Et nous vous retrouvons très prochainement.
Merci à vous.
Merci.
À l'occasion de la semaine des médias et de la presse, nous avons posé des questions à notre professeur d'histoire-géographie ainsi que notre professeur documentaliste.
Et donc maintenant, nous allons interviewer Monsieur Pargade, professeur d'histoire-géographie sur les fake news. Monsieur Pargade, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir. Alors monsieur, selon vous, c'est quoi une fake news ?
Voilà, le plaisir est partagé. Une définition de fake news, déjà, ça peut être sa traduction, c'est-à-dire c'est une fausse nouvelle. Donc, c'est une information qui est erronée. Normalement, ça doit être objectivement prouvable que l'information est erronée. Alors, est-ce qu'elle est erronée volontairement ou involontairement ? Je pense que ça, c'est pas obligatoirement dans ce qu'on entend défini par une fake news. Mais l'idée, c'est que quand même, elle soit diffusée en masse. Et généralement, on parle surtout des fake news, disons assez récemment, c'est diffusé en masse sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec probablement aussi l'idée que sa diffusion, elle a pour un objectif, c'est-à-dire déstabiliser l'ordre, le pouvoir, des choses qui sont consensuellement établies ou légitimes, histoire de remettre en cause, mais en s'appuyant donc sur des informations fausses. Et ça me fait penser à une chanson que j'écoutais hier de Youssoupha. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur.
Oui.
Je vous chercherai la référence. Mm-hmm. À un moment, il évoque dans un de ses chansons une époque où ce qui est cru a plus d'importance que ce qui est vrai. Et c'est souvent sur ce terreau-là que les fake news prospèrent.
Ouais, d'accord, merci. Et donc, une dernière question. La propagation des fake news, en fait, pourrait-elle, encore une fois, selon vous, jouer un rôle important au niveau politique, notamment l'élection présidentielle en France en 2022 ?
De toute façon, les fausses nouvelles, elles ont toujours eu, de l'importance dans les élections et dans le choix fait par les électeurs, surtout dans la période qui précède les élections. Ça a d'ailleurs été le cas aux dernières élections, puisqu'en 2017, je crois que vous parlez de l'élection présidentielle. En 2017, ça a eu de l'importance. Il y a eu des informations qui ont été révélées, qui n'étaient pas prouvées, qui sont avérées comme fausses. D'ailleurs, c'était souvent en direction d'Emmanuel Macron. Mais d'ailleurs, un des paradoxes, c'est qu'il a quand même été élu, malgré la propagation de ces fake news qui ont commencé, je suis pas expert, mais... de ce que j'ai entendu, c'est que c'était souvent pour origine des pouvoirs étrangers, en particulier la Russie, qui intervient aussi dans d'autres élections. Donc sur les prochaines élections, ça aura sûrement un impact. D'ailleurs, encore une fois, Emmanuel Macron, dans une interview que j'écoutais de lui, où il parlait de la Turquie d'Erdogan, qui devient un pouvoir très autoritaire, était interrogé sur... l'impact qu'allait avoir la Turquie sur les prochaines élections en France. Et il disait, de toute façon, c'est certain qu'ils vont agir. Donc, je ne sais pas s'il a des informations. Mais en tout cas, pour lui, c'est certain que la Turquie va agir. Probablement, la Russie va essayer d'influencer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une loi qui a été votée sous la législature de... Comment il s'appelait ? Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre français, qui est une loi qu'on a appelée anti-fake news, et qui donne des pouvoirs assez nouveaux dans le contrôle de l'information au pouvoir. Et alors, ça a suscité beaucoup de débats, mais on n'en parle pas encore, mais je pense qu'on va beaucoup en parler, parce que ça donc autorise certains juges, je ne sais plus exactement les conditions, mais en quelque sorte censurer, en tout cas faire retirer des informations des réseaux sociaux, après qu'il ait été prouvé, je crois que le mot c'est objectivement, que c'est une information fausse, et ce dans les 3 mois qui vont précéder l'élection, n'importe quelle élection, pas que l'élection présidentielle, mais ça jouera pour l'élection présidentielle. Et en fait, comme elle vient d'être votée, je ne sais plus si c'est un an ou deux, elle va être pour la première fois appliquée, alors peut-être pour les régionales qui arrivent là en juin, en France, c'est des élections intermédiaires, mais probablement on en parlera encore plus pour ces élections présidentielles. Et ça pose des questions parce que ça va faire un débat. Alors déjà, ce sera peut-être bien si on regarde positivement. S'il y a un contrôle, normalement, il y a un contrôle. Ça pourrait être contrôlé. Ça ne va pas être par exemple, Macron ou les députés qui censuraient des médias. Il y aura un contrôle probablement démocratique. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement parce qu'on n'a pas vu vraiment appliqué. Donc ça va jouer un rôle peut-être positif si ça enlève certaines informations qui pourraient fausser le choix des électeurs. Mais ça va quand même poser des questions, c'est certain, parce qu'il y aura un débat sur la légitimité du pouvoir à censurer des informations. Ça veut dire qu'on ne laisse plus les gens décider par eux-mêmes de ce qu'ils reçoivent et qu'apparemment, il y a besoin que l'État intervienne. Donc, intervienne pourquoi, pour qui? Est-ce que ce ne sera pas à double tranchant? Est-ce que les informations qui seront censurées ne seront pas encore plus vues comme des informations vraies par tous ceux qui sont complotistes ou qui voudront croire que c'est vrai quoi qu'il en coûte? Donc, ça va poser des questions et ça va poser des questions sur les libertés, la liberté de la presse, le droit à l'information. En France, donc on verra, ça aura un impact, mais je sais pas dans quel sens.
D'accord, merci beaucoup monsieur, ce fut un plaisir de vous avoir encore une fois
et... c'est un plaisir, partagé.
Oui, et à très bientôt.
Voilà,
donc maintenant nous allons interviewer madame Rico Reales, professeure documentaliste du collège lycée. Madame Rico Reales, bonjour.
Bonjour.
Donc, nous allons vous poser quelques questions sur les fake news. Donc, c'est un plaisir déjà de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Merci également.
Merci. Est-ce que les fake news peuvent influencer l'opinion publique, en fait?
Oui, mais alors, je vais parler pour la France. Il existe, par exemple, au moment des élections, il existe une loi contre la manipulation de l'information. Donc, c'est une loi qui crée une procédure judiciaire spéciale afin de faire cesser, durant les 3 mois précédant un scrutin, la diffusion de fausses informations, à la fois sur les services de communication publique, mais aussi sur les plateformes numériques. Cependant, force est de constater que les fake news font partie du champ médiatique. Et qu'il est difficile ici, à l'heure actuelle, de trier les informations, car elles sont souvent massives et circulent très vite. Alors, pour s'y retrouver et démêler le vrai du faux, eh bien, on peut s'appuyer sur les fact-checking. Alors, les fact-checking, c'est un décodage de l'information effectué par des journalistes. Ce fact-checking s'est développé récemment, et il consiste à traiter des sujets d'actualité à partir de faits. Les informations, affirmations sont vérifiées, les données sont comparées pour mieux traquer et déconstruire les fausses informations. Alors, beaucoup d'organismes de presse ont leur propre service de fact-checking, comme les décodeurs au journal Le Monde ou Désintox au journal Libération. Alors, les internautes, bien sûr, ont aussi un rôle essentiel à jouer pour lutter contre les fake news. Alors, bien sûr, avant de partager une information, il faut aussi se poser des questions. Quelle est la source de l'information? Qui l'a écrite? De quand date cette information? Par qui elle a été relayée? Est-ce qu'on on la trouve sur d'autres sites? Alors, à l'école, l'éducation aux médias et à l'information, qui est un enseignement transversal dans le système français, participe au développement de ce regard critique face aux médias, avec comme temps fort la Semaine de la presse et des médias, organisée chaque année, aussi bien au primaire qu'au collège-lycée. Alors, pour terminer, je dirais que développer son esprit critique et s'intéresser à l'actualité reste essentiel pour se forger sa propre opinion et pour ne pas se laisser manipuler par les fake news.
D'accord. Merci beaucoup, madame, pour vos conseils.
Enfin, dans le cadre du Printemps des Poètes, nous avons demandé à M. Chedli, professeur des lettres, et Yasmine Khales, élève de 4e D, de nous présenter cette activité.
Bonjour monsieur, et merci de nous accorder cette interview. Donc, première question, selon vous, c'est quoi le Printemps des Poètes?
Alors, d'abord je vais répondre par une définition. Le Printemps des Poètes est une manifestation culturelle, nationale d'un point de vue français, mais également internationale, puisque en fonction des pays, cette saison est célébrée. D'ailleurs, j'aimerais rappeler à titre d'historien que les saisons ont toujours été célébrées par des fêtes religieuses. Aujourd'hui, la religion prend moins de place dans la société moderne. Oui. Et puis, ce qui a remplacé la religion, c'est la culture. Et la culture s'exprime à travers différents supports, notamment la poésie. Et la poésie est célébrée à travers cet événement, donc le Printemps des Poètes. Pourquoi le printemps? Parce que le printemps, c'est la vie, et la poésie, c'est la vie.
Oui.
C'est la vie, c'est l'âme qui s'exprime. Donc voilà un peu l'histoire de ce Printemps des Poètes.
Et donc, pourquoi ce nom?
Pourquoi ce nom ? Je vais d'abord le situer par rapport aux saisons. Pourquoi ce nom ? C'est-à-dire que, on vient de le dire précédemment, d'un point de vue culturel, il y a 4 saisons, printemps, été, automne, hiver.
Oui.
Bon, l'automne et l'hiver ont toujours été symboles de mort. La nature se meurt en automne, la nature est morte en hiver. L'humanité, jusqu'à récemment, souffrait des saisons. C'est-à-dire, vraiment, les gens mouraient en hiver. L'été, c'est pareil, les sécheresses. L'été, c'est également une période très intense d'un point de vue moderne, puisque c'est les vacances. Par contre, le printemps, c'est le renouveau de la vie. Et c'est pour ça que la poésie a lieu durant, ou plutôt est célébrée durant ce mois de mars en général, d'accord, avec l'arrivée du printemps.
Okay. Et donc nous avons constaté plusieurs poèmes exposés à la vie scolaire et notamment un peu partout dans l'établissement. Et nous voulons savoir, s'il vous plaît, comment vous les avez trouvés, ces poèmes des élèves, en fait.
Alors, d'abord, comment je les ai trouvés Il y a deux aspects. Il y a l'aspect professeur et l'aspect moi, Mehdi Chadli, comme tout être humain. Moi, en tant que professeur, je suis très satisfait. Pourquoi ? Parce que la pédagogie en laquelle je crois, c'est une pédagogie de projet. J'aime bien apprendre des choses à mes élèves, parce que c'est dans le cadre du programme, mais c'est mes élèves, je les sens vraiment capables de maîtriser un sujet s'ils l'exploitent à des fins artistiques. Donc vous pouvez le remarquer, à chaque fois qu'il y a une séquence dans mes matières, j'essaye de la mettre en valeur à travers des projets. Donc, ce projet, il a été visible.
Oui.
On l'a tous vu, de la sixième à la première. Bon, c'est vrai que les premières, les pauvres, ils passent leur bac. Oui. En tout cas, ils viennent passer les oraux du bac blanc. C'est vrai que c'est difficile pour eux d'entrer dans une démarche de projet, mais de la sixième à la quatrième, c'est tout à fait possible. Les troisièmes passent un brevet, les secondes sont dans recherche de spécialisation, l'orientation, ils sont tous stressés. Sixième, cinquième, quatrième, on peut s'épanouir, on peut s'exprimer. Et s'exprimer, ce n'est pas à l'intérieur des quatre murs de la classe. S'exprimer, c'est dehors, en dehors des classes. Et comme vous avez pu le remarquer, donc pour ma part, c'est le fameux carré du poète que j'ai installé au niveau de la cour. Donc ça a commencé comme ça, une table, une chaise, un carré, vas-y si tu oses, exprime-toi. Et puis petit à petit, vous avez vu, tous les professeurs se sont lancés dans cette expérience avec Madame Tamsourt, avec Madame Agifiacre, avec toute l'équipe pédagogique en lettres. Et vous-même, hein, je suis très 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 content de voir que la presse, en tout cas la presse scolaire, s'en empare, parce que c'est le sujet du moment, vous êtes au cœur de l'actualité. Madame Ricorales, donc ici, donc effectivement, le CDI est un lieu dédié au projet des élèves. Donc, il y a toute une série d'affichages, toute une série de mises en valeur de ce projet. Et c'est très important de sortir de la classe.
Oui, vous avez raison.
Merci.
Merci. Merci beaucoup, monsieur.
Yasmine, pour toi, c'est quoi le printemps des poètes ?
Pour moi, le printemps des poètes, c'est une saison qui est faite pour se relâcher et s'exprimer à travers la poésie. Ça encourage également les élèves à la lecture ou à l'écriture des poèmes. Ça les sensibilise à cet art. Et ça permet de se relâcher à travers un thème qui change chaque année.
Et quelles sont les activités qui ont été réalisées à cette occasion ?
À cette occasion, il y a eu la création d'affiches qui contenaient des poèmes écrits par nous-mêmes. Et chacun avait pour thème le désir. Il y avait également énormément d'expressions orales, c'est-à-dire qu'il y avait une table et une chaise au milieu de la cour. Et il fallait dire son poème devant tout le monde avec ses deux accessoires.
Ok, merci Yasmine pour ton interview.
De rien.
Nous avons notamment eu l'occasion d'interviewer une élève de primaire pour en savoir plus sur les diverses activités réalisées.
Donc maintenant, nous allons interviewer Rita, élève de CM2A, qui va nous dire un peu plus sur les activités qu'il réalise. Donc Rita, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu s'il te plaît nous répondre à cette question ?
Eh bien, on fait quelques projets. Des exposés, des recherches et des trucs comme ça. Et on fait aussi un chant commun pour tous les élèves du primaire. Et en fait, à la fin de chaque période, ce projet commun consiste en des danses, du chant et des trucs comme ça. Et puis, c'est filmé. C'est envoyé dans une vidéo.
D'accord. Et quoi, vous réalisez d'autres activités, par exemple des activités en langue arabe ?
Oui, oui. On a fait des activités sur le jour international de la langue arabe. Mmh. On a essayé d'imiter l'ancienne écriture arabe. Et on a fait des exposés sur comment la langue arabe a été créée, tout ça.
D'accord. Et en ce qui concerne la semaine du printemps des poètes, avez-vous réalisé des activités ?
Oui. Mmh. On s'est formé en groupe de 3 et on a appris un poème. Comme ça, en fait, ces groupes de 3 partent dans chaque classe pour le réciter.
D'accord. Ça a l'air intéressant. Et donc, tous ces projets, toutes ces activités te plaisent ? À oui. toi et à tes camarades, bien sûr.
Oui, oui, c'est très intéressant.
Merci Rita pour ton intervention. Pour ton intervention qui a été très pertinente et qui nous a donné une idée des activités que vous réalisez dans le primaire.
De rien.
Et ce n'est pas fini. Venez découvrir la deuxième partie de notre épisode.